17, Ézéchiel chapitre 17, versets 22 à 24. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je prendrai moi-même un jeune rameau à la cime du cèdre, je le cueillerai à l'extrémité de ses branches, et je le planterai sur une très haute montagne. Sur une montagne élevée d'Israël, je le planterai. Il développera des branches, produira des graines et deviendra un cèdre magnifique. Des oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et trouveront un abri à leur ombre. Alors tous les arbres de la campagne sauront que je suis le Seigneur. J'abats les arbres trop élevés et je fais pousser les plus petits. Je dessèche les arbres verdoyants et je redonne de la sève aux arbres desséchés. C'est moi, le Seigneur, qui l'affirme et je ferai ce que je dis. Amen. Nous connaissons tous peut-être l'expression « Ah, comme moi, au temps de la belle époque ». Cette expression qui agace beaucoup la génération actuelle, comme si tout ce qui se rapportait au passé était toujours meilleur. Effectivement, tout ce qui est passé n'est pas tout forcément bon et vice-versa. Et tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas forcément mauvais. Mais le prophète Ézéchiel annonce qu'il est vrai qu'Israël est devenu ici un peu nostalgique de la belle époque de David et de ses fils quand Israël connaissait la prospérité et les gloires du passé parce qu'ils étaient en captivité. Ah, Israël, le temple d'Israël qui faisait partie des sept merveilles du monde avec le marbre rose qui resplendissait quand le soleil se levait sur Jérusalem. Ah, Israël. Et cette nostalgie les a enfermés dans une bulle parce qu'ils attendaient de retrouver cette gloire perdue. Et c'était devenu un piège pour Israël. Exemple, le roi David qui avait conquis des royaumes, qui triomphait dans les différentes batailles qu'il avait engagées. Voilà un peu les causes de cette nostalgie. Le premier temple qui était si imposant, et comme je viens de le dire tout à l'heure, classé parmi les merveilles du monde, à l'époque, attirait l'admiration et l'admiration des contemporains rien que dans l'architecture et la qualité des ornements à l'intérieur du temple qui était inégalée. La sagesse du roi Salomon qui était connue partout de ses voisins. Et même la reine de Saba est venue pour admirer de ses propres yeux ce qu'elle avait entendu les échos. Et elle avait avoué, je vois maintenant la gloire d'Israël. Voilà un peu ce qui s'est passé. Israël rêvait de retrouver cette belle époque. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils ont eu? Il n'y avait aucun fils descendant de David pour le trône au moment où Ézéchiel a écrit ce chapitre. Aucun héritier en vue d'accéder au trône du roi David, car la famille royale a été frappée de stérilité en la personne du roi Joachim. Il restait sans fils. Et même les fils de Sédécias furent égorgés à Ribla. Donc il n'y avait plus personne. Or Dieu avait promis que les fils de David régneront éternellement sur le trône d'Israël. Et c'est le sens de l'image de l'arbre ici. L'arbre élevé, mais qui est devenu sec. Et par ailleurs, même quand le second temple fut reconstruit plus tard, la splendeur du second temple, dit l'Écriture, et sa gloire ne fut plus comme avant. Et si on fait la comparaison entre le premier temple et le second temple, il n'y a pas photo. C'était un lieu très modeste. humainement parlant, Israël avait perdu toute sa gloire du passé. Voilà le constat. Et n'oublions pas aussi, on est toujours dans le livre d'Ézéchiel, il y avait aussi la vision des ossements desséchés, si vous avez déjà lu ce passage. Dieu avait emmené Ézéchiel dans une vallée où il n'y avait que des ossements secs. Mais, par la suite, l'Éternel avait ordonné à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements, et petit à petit, les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Il y a eu les tendons, la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit, et enfin le corps a retrouvé la vie après le souffle de Dieu. Ce qui veut dire que l'Éternel peut faire revivre une vie là où il n'y a que la mort. Mais il y a un problème. L'espoir que Dieu avait promis n'était pas à la hauteur de l'attente des Israélites. Ils attendaient un Messie au moins à la stature de David et de Salomon, car pour redresser le pays de ces catastrophes qu'ils ont subies et ce qu'ils ont vécu après la captivité, il leur fallait un homme ou même un surhomme pour redresser tout ça. Or, ce que le prophète promet ici est différent. L'image utilisée n'est pas trop rassurante. Voilà ce que le prophète a dit. « Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre élevé et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches une pousse tendre. » On ne voit pas la force, la gloire, quelque chose de très modeste. Et chez Ésaïe, on parle même de rejeton, vous voyez, qui surgit des racines, donc c'est assez modeste. Et dans Ézéchiel, il spécifie que c'est un rejeton s'élevant d'une terre aride. Ce qui marque vraiment une idée d'abaissement. Et nous pouvons imaginer la déception du peuple en écoutant cette prophétie, car la tâche qui attend est assez énorme, voire même colossale. Pourtant, celui qui a été annoncé est en inadéquation du défi qui attend. Est-ce une promesse? Mais si vous lisez dans l'Ancien Testament, à chaque fois Dieu opère ainsi. Souvenons-nous de l'époque des juges où Israël était sous la domination des Philistins. Le peuple n'avait pas de chef après la mort de Josué. Pourtant, face à eux, il y avait cette population guerrière qui faisait peur à Israël, les Philistins à l'exemple de Goliath, des géants devant eux. Or, Israël n'avait pas de chef. Le peuple n'avait pas de chef, pourtant, en face d'eux, c'était un obstacle de taille. Mais, parmi les juges que Dieu avait choisis, il y avait par exemple, un certain Gédéon, voilà, qui s'appelait Gédéon. Sa fratrie était la plus faible en Manassé. Quand Dieu a choisi Gédéon, c'est ce qu'il a dit, « Mes seigneurs, ma fratrie est la plus faible en Manassé. » Regardez bien, la plus faible en Manassé. En plus, Manassé, c'était le frère qui n'a pas reçu l'héritage de Dieu. C'était Éphraïm, le frère jumeau. Et il est le plus petit de sa famille en plus. Vous voyez, c'est en abaissement. Et ce n'est pas fini. Quand il avait attaqué les Madians, Dieu lui avait demandé de recruter des guerriers et de baisser à maintes reprises les effectifs pour le combat. Le réflexe d'un guerrier, on choisit le maximum de guerriers pour combattre l'ennemi. Or, Dieu lui a dit, « Non, tu dois baisser les effectifs. Vous êtes trop nombreux pour attaquer. » Au départ, ils étaient 22 000 hommes au combat. Et Dieu a dit, « Non, tu dois baisser. » Et à la fin, il n'y avait que 300 hommes. Pourquoi Dieu avait insisté là-dessus? C'est pour qu'il ne se vante pas que ce n'est pas par ta force que tu as été sauvé, mais par la main de l'Éternel. C'est trop facile de dire après, oui, Dieu nous a sauvés, mais moi aussi, j'ai participé. J'étais un bon guerrier. J'étais un bon stratège. Oui, gloire à Dieu, mais si je n'étais pas là, ça n'a pas pu se faire. Et même à la fin de la vie de Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a construit un statut. Ils ont vénéré Gédéon. Voilà le résultat. L'humilité ne signifie pas adopter une forme de petitesse ni une marque d'infériorité. L'humilité de Dieu dans cette prophétie a un but précis, c'est que cet arbre qui va pousser n'a plus cette idée de domination du royaume de Juda, c'est plus l'objectif de Dieu sur toutes les populations de la terre, puisqu'il s'agissait de cela auparavant, l'hégémonie israélite sur toute la population. Mais après la captivité, le plan de Dieu se commençait à s'ouvrir pour dire « Vous n'êtes pas choisis pour dominer le monde, mais vous êtes choisis pour que le monde trouve un abri en vous. » Voilà le projet de Dieu qu'Israël n'avait pas compris. Mais cette fois-ci, l'arbre sera là pour que tout oiseau, les divers peuples de la terre puissent trouver refuge auprès du Messie annoncé par le prophète. Pendant la neuvaine de Pentecôte à la cathédrale de Namur, à la fin de ma prédication, il y avait un monsieur qui est venu vers moi et m'a dit, il était un peu choqué, « Pourquoi osez-vous encore dire que ce peuple est choisi de Dieu ?» après tous les massacres qu'il a fait en Palestine. Je comprends sa douleur, humainement parlant. Mais parce que c'est cette vision-là qu'on prend tout le temps, Israël, et même Israël ne comprend pas ce projet de Dieu. Dieu a choisi ce peuple pour devenir un abri, mais plus une force de domination. Ici, la marque de grandeur de Dieu ne se situe plus dans le désir du peuple de Dieu de dominer toutes les nations. Au contraire, son souhait est que tous les hommes puissent trouver refuge auprès de Dieu. Sur le plan pastoral, chers frères et sœurs, une réflexion s'impose. Quelle serait notre conception de Dieu vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Je m'explique. Comment comportions-nous face à ceux qui ne croient pas ou qui n'acceptent pas la seigneurie du Christ? Serions-nous aussi tentés, comme les croisés à l'époque, qui voulaient exterminer ceux qui ont pris Jérusalem parce que ce sont des ennemis de l'Évangile? Ou bien serons-nous tentés à réagir comme les disciples de Jésus? Rappelez-vous, lorsque Jésus voulait traverser la Samarie, et il a envoyé ses disciples pour demander l'autorisation. Vous voyez, même le Seigneur Jésus respecte la loi. L'autorisation de traverser Samarie. Et ils n'ont pas reçu cette autorisation. Non, vous ne pouvez pas traverser. Vous devez faire le tour. Alors là, Jacques et Jean étaient furieux. Ah, vous osez dire non à Jésus? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Seigneur, est-ce qu'on peut demander le feu pour détruire cette ville? Voilà la colère, au point qu'ils avaient demandé à Jésus de détruire toute une population. Nous allons peut-être dire, oh, c'est quand même exagéré ce que les disciples ont demandé. Oui, peut-être, mais honnêtement, sommes-nous si différents d'eux? Comment est-ce que nous réagissons quand nous sommes confrontés à des gens qui font résistance et même avec violence verbale lorsque nous partageons notre foi ou notre témoignage à une personne ou même à notre propre famille qui refuserait notre main tendue. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce texte, j'aime bien cette image ou cette métaphore dégagée de cette prophétie d'Ézéchiel. D'une part, l'arbre élevé imposant qui veut se démarquer de tous les autres arbres juste pour montrer qu'il est le plus fort, puissant, extraordinaire, mais qui n'apporte rien. Et d'autre part, l'arbre ou le jeune rameau, si modeste, et la cime du cèdre, tout petit, mais qui regroupe en lui-même toutes les nations, tous les individus venant de tous bords, sans regarder qui il est et d'où il vient. Chacun et chacune trouve sa place en lui et ils se sentent accueillis et non pas jugés ni refoulés à l'extérieur. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir le monde, frères et sœurs en Christ? Et quand je dis tout le monde, sans exception, sans regarder ni prendre en considération ses soi-disant faiblesses, sommes-nous prêts à les accueillir? On est tellement engagé dans ce qu'on appelle comment redynamiser l'Église, comment accueillir, comment évangéliser les gens. Oui, c'est facile de dire ça, mais quand ils viendront, sommes-nous prêts à les accueillir tels qu'ils sont? Parfois même nos regards sont des regards de juge. Tu n'es pas comme nous. Chers amis, apprenons à nouveau le sens de cette phrase de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. » Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées dans ce monde. Mais quelles mains qui vont le redresser? Ils veulent venir vers nous pour chercher du repos, mais parfois, notre regard est trop sévère. Ils ont peur de chercher un peu d'ombre sur nos branches, mais sommes-nous accueillants? Es-tu comme l'arbre élevé, puissant, extraordinaire, mais qui ne sert à rien, ou comme la cime de cèdre, tout petit, mais qui regroupe toutes les nations? Amen.